Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, mes chers docteurs ? Tout d'abord, je dois l'avouer, avant de prendre les clés de cette clinique pour ouvrir les portes à nos 3 docteurs spécialistes en dissection des idées, j'ai eu une appréhension. Le sujet de cette semaine s'intitule « l'euthanasie ». Certes, les connaissants, ils vont bien trouver d'autres significations à ce terme, pourtant l'angoisse est montée en moi. Vont-ils m'euthanasier aussi ? Le docteur Mabuse aura sûrement 1000 raisons philosophico-sociologiques pour me convaincre qu'il faut y passer. Le docteur Arousse revendiquera la nécessaire réforme des retraites, les besoins de faire des économies pour combler le trou de la sécu, et même le bon sens pour laisser la place aux jeunes pour m'envoyer au paradis. Like. Enfin, le terrible docteur Mabuse dira une fois encore « mort aux cons » et aux improductifs pour justifier mon injection tout en oubliant sciemment de préciser les définitions, sachant que l'histoire a toujours le mot de la fin. Pourtant, si j'ai bien compris, ils n'ont pas forcément l'intention de passer à l'acte trop rapidement. Peut-être parce qu'ils se doutent bien qu'ils pourraient eux aussi faire partir du lot des euthanasiés sur l'autel du pragmatisme libéral et de la pensée unique. Ouf ! Rien de tel ne va se produire. Ils vont affûter leur bistouri pour nous expliquer tout et parfois son contraire, pour le plus grand plaisir de cette émission. Quoi de neuf, docteur ? Alors, un peu rassuré, mais pas trop, avec eux j'ai appris à me méfier, je lance l'opération qui veut nous parler d'euthanasie, sans forcément qu'il y ait mort d'homme. Mabuse, comme d'habitude, n'hésitera pas à revêtir la blouse en premier. Pendant ce temps-là, House réfléchit déjà et Jenkill il prépare l'estocade. Alors, docteur Mabuse.
Euthanasie, ou la mort joyeuse ? Oxymore ou pléonasme ? Quel cas de conscience dans une société où la peine de mort a été abolie et où, bien évidemment, le meurtre est proscrit ? Peut-on donner la mort comme un cadeau à celui ou celle qui la réclame ? Peut-on refuser le choix de mourir à une date donnée alors que personne n'a eu, et pour cause, le choix du jour de sa naissance ? Ce suicide assisté n'est-il qu'une aide apportée à celui ou celle qui n'a plus la force ou la volonté de l'accomplir lui-même ? Pourquoi ne pas l'étendre à ce moment-là à tous ceux qui en auraient envie, mais pas ni les moyens ni la force de s'exécuter eux-mêmes, souvent par peur de souffrir ou de la mort tout simplement ? Quid des faux suicides qui sont des appels au secours, un peu comme un appel en justice d'une condamnation à mort en première instance, alors que l'euthanasie est irréversible ? Bien sûr, la mort assistée serait la solution à une souffrance physique devenue insupportable, mais à qui ? Au patient ou à ceux qui l'entourent ? Mais beaucoup de suicides sont dus à une souffrance morale, souvent liée à une fracture d'isolement au social. Cette raison n'est-elle pas aussi valable que la souffrance physique ? La médecine est pour l'instant la seule institution qui ait la faculté d'administrer le cocktail fatal. Pourquoi ? Sans doute parce qu'elle permet que la morale soit sauve. Notre société judéo-chrétienne a une conception de la mort qui n'est qu'une étape dont l'avènement échapperait à l'individu qui en est frappé. La vision culturelle de ce phénomène déforme la conception d'un phénomène parfaitement naturel. Alors, ne soyons pas focus. C'est le seul moment dans la vie où nous pourrions choisir quand y mettre fin. Je reconnais que dans une société où l'on annonce que l'allongement infini de la vie est envisageable, l'hypothèse d'y mettre fin est paradoxale. Mais s'il est un véritable combat, c'est celui de pouvoir disposer de son corps comme on l'entend. Qu'attend son âme ? Bof !
Ah bah alors là, nous voilà bien partis. Le docteur House va peut-être retrouver d'autres choses à nous raconter, j'espère.
Alors moi je suis sur d'autres néons. Parce que la vie est un fardeau. Une certaine vision chrétienne veut que le passage de l'homme sur terre soit une douloureuse épreuve nécessaire à la quête de l'éternité. La grandeur d'une vue se mesure au degré de souffrance endurée. Les martyrs sont sanctifiés, à chacun son chemin de croix. Je ne sais pas si Jésus a crié « à ses papas », mais heureusement, la médecine qui s'emploie à guérir soigne aussi la souffrance. Éradiquons la souffrance. La vie est un cadeau, un magnifique cadeau ne laissons pas la souffrance l'abîmer. La médecine a prolongé l'espérance de vie. Pour contredire Jacques Brel, vieillir, la belle affaire, mais mourir. Dans ce monde qui considère que la souffrance est un fléau, comment ne pas admettre que le passage de la faucheuse ne provoque pas d'appréhension, et chacun de préférer un départ foudroyant à une longue agonie. L'accompagnement médical, soins palliatifs, sur les derniers instants de la vie est une nécessité. L'euthanasie, élargir les droits du malade à une fin digne, avec un encadrement bioéthique et juridique, une autre. Mon diagnostic, l'athée que je suis, n'a pas le sentiment de mettre son éternité en péril s'il avance légèrement son départ.
Ah, et oui, c'est vrai que puisque quand on ne croit pas à l'éternité, on pourrait définir la fin, en effet, début, une fin. Et le docteur Jekyll, et je suis sûr, pense qu'il y a un début et une fin à tout.
Oui, non, mais moi, ça me fait marrer mais quand j'entends un athée qui nous fait un discours sur la religion de A jusqu'à Z. Alors,
je partage l'avis du docteur Jekyll.
Voilà,
même si j'aime bien ce que vient de dire le docteur House avec le sourire aux lèvres en parlant de la mort.
On se demande ce que c'est que l'opium du peuple. Quoi. Bon, mais non, la mort, c'est pas ça. C'est pas, non, ça a rien
c'est
à
quoi
voir.
La mort
ça, non,
ah non, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet.
Ah oui, mais l'euthanasie, c'est pour y arriver. Messieurs, c'est comme le djihad. C'est exactement comme le djihad. Il y en a deux. Des morts, des djihads. Il y a la grande, physique, qui fauche le commun des mortels et le renvoie dans le néant des hommes. Elle est souvent douloureuse, paraît-il. À moins qu'elle ne soit subite. Là, je serais d'accord avec le docteur House. Puis, il y a celle que j'appellerai la petite mort. Non, pas celle à laquelle vous pensez. Une mort sociale, qui bannit l'être hors des frontières de la cité. Peut-être plus terrible que la première. Et si chacun sait avec certitude que la vie est une affaire qui finit mal physiquement de toutes les façons, il reste toujours quelque espoir d'échapper à la seconde, la mort sociale. Je veux dire, ne pas être ostracisé, par exemple, du monde du travail. Pour les gens du monde politique, il en est un peu différemment. Tiens, on va prendre deux exemples locaux que vous connaissez bien. Celui de Georges Frêche et celui d'Hélène Mandroux. Bon, Georges Frêche, lui, il a vécu la première. La mort physique, définitive pour le commun des mortels. Par contre, Hélène Mandroux, elle, est en train de vivre la seconde. La mort sociale, politique, au sens noble du terme. Elle ne peut qu'en souffrir. L'agonie, qu'elle soit physique ou politique, mérite la compassion. Mieux, la sympathie, au sens grec du terme. Souffrir avec. Aujourd'hui, une nouvelle science voit le jour, l'euthanasie. Elle permet, grâce à des procédés, de hâter ou de provoquer la mort d'un malade incurable. Incurable, c'est la condition sine qua non. Or, les psychanalystes s'accordent à dire que le pouvoir est une maladie incurable. Alors, messieurs les socialistes, un peu de charité. Achevez-la en douceur, s'il vous plaît. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire.
Ouais. Non, pas obligé de te croire, en effet. Et puis, d'autre part, docteur Jekyll, la mort subite, c'est pas le nom d'une bière, non? C'est pas ça, non?
C'est
la mort d'une mise en bière. C'est le nom d'une mise en bière.
C'est une gueuse au sens républicain du terme.
Alors, on a entendu nos trois docteurs. J'espère que vous commencez à avoir une petite idée sur ce qu'ils peuvent dire sur cette euthanasie, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut débattre quand même. Or, qui veut lancer une idée et l'autre la reprendre? Allez. Toujours m'abuse, toujours volontaire. Hein. C'est le seul qui a le courage de se lancer en premier. Les autres ne sont là que pour répliquer.
C'est parce que je n'ai pas peur de l'eau froide, même si je suis un chat échaudé.
Quand on réplique, c'est parce qu'on s'est appliqué avant.
Voilà, c'est ça. Donc, je crois que le problème, c'est quand même assez symptomatique. Je pense qu'on est vraiment dans une société avec une pesanteur morale absolument extraordinaire. C'est-à-dire, nous n'avons une réflexion, le comité d'éthique n'est une réflexion sur l'euthanasie que parce que nous pensons que donner la mort à quelqu'un est immoral. Et donc, qui réfléchissent pour savoir si effectivement on peut avoir une conception de la mort provoquée qui soit compatible avec les règles morales de la société. Je pense qu'effectivement, il y a sans doute d'autres sociétés, je n'ai pas d'exemple en tête, qui permettent effectivement d'accompagner jusqu'à la mort quelqu'un de manière plus ou moins radicale ou plus ou moins brutale.
Et puis avec cette manière aussi faux cul qu'ont beaucoup de républicains au sens noble du terme, à savoir oui mais si on pratique l'euthanasie, si on la légalise, est-ce que l'euthanasié est vraiment d'accord?
Il ne serait pas manipulé.
Et donc, en l'occurrence, ce serait, s'il n'était pas d'accord, évidemment un assassinat. Absolument. Et donc, à partir de quand l'euthanasie a-t-il encore sa conscience pour pouvoir réclamer véritablement, au sens strict du terme, l'euthanasie, donc la mort, sachant que ça veut dire quoi, avoir toute sa conscience? Parce que quand vous savez que vous avez quand même 99% d'abrutis qui n'ont jamais eu de conscience, donc effectivement, ça pose quand même sérieusement problème.
Le docteur Jekyll, par exemple, on pourrait penser à Mme Bettencourt. Sa fille aurait peut-être voulu l'euthanasier, puisqu'elle n'était plus responsable.
Ah oui, mais par exemple, ou encore, il y avait une émission sur RTL ce matin à propos de la succession. Et donc, lorsque le père mourait, que la mère restait vivante, c'est les enfants qui héritent. Ce qui peut donner une idée, aux enfants, d'achever la mère le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas de problème.
C'est le principe du viager.
C'est le principe du viager. Ce côté euthanasie, donc ça, c'est une chose. Ce qui m'étonne toujours, c'est que là, je suis d'accord avec Dr Mabuse. Sur le fait que... Mais l'euthanasie, en quoi ça devrait regarder un comité d'éthique ou je ne sais quoi? Ça regarde que soi. Uniquement soi. Non, mais c'est la liberté individuelle avec un grand L et un grand I.
Non, mais c'est parce qu'on passe de quelque chose... Et ne soyons pas faux cul nous-mêmes. On passe de quelque chose qui est... je ne vais pas dire généralisé, mais qui arrive très fréquemment dans les hôpitaux, etc., sans qu'on en parle, et que là, on va passer à la phase, disons, légalisée, c'est-à-dire où ça devient quelque chose de possible et admis par tous. C'est ça le véritable problème.
Non, parce que... je crois que le véritable problème, moi je le vois, autant effectivement la dignité de la personne, le fait de partir de la, je dirais, en douceur, le fait qu'effectivement le malade puisse se prononcer est une chose. Maintenant, il faut quand même se méfier d'une chose, c'est, je dirais, la légalisation, l'aspect juridique qui, à partir de ce moment-là, autorise la mort, et y compris même le fait qu'une loi puisse exister, à partir de ce moment-là, elle peut mettre en péril des situations négatives qui entoure la vieillesse, qui entoure la maladie, qui entoure le handicap. Et à partir de ce moment-là, ça peut éloigner la médecine, disons, de sa fonction première. De vouloir soigner, de vouloir de faire preuve d'humanité, d'accompagner. Si à partir de ce moment-là, c'est la dédouaner, parce qu'après, on peut tomber facilement aussi quand même dans des visions ultra utilitistes, je dirais, ou à partir de ce moment-là, simplement pour un hôpital, pour faire des économies, on se débarrasse de X, Y ou Z.
C'est ce que je disais en introduction.
Donc à partir de ce moment-là,
Et c'est ce qu'ils font la plupart du temps, puisqu'ils renvoient malade en extrême fin de vie à la maison pour ne pas qu'il meure à l'hosto, parce que justement, en termes de statistiques,
non, mais ceux qui ne veulent pas, mais ils le renvoient, ils font peut-être... Mais y compris, il y a quand même une connotation, l'humanité est présente. Alors qu'en fin de compte, bon...
Où ça, à l'hôpital?
Bah oui.
L'humanité est présente.
Bien entendu.
Pas l'humanité, oui, pas l'humanité.
Écoute, moi j'ai des amis qui travaillent dans les unités de soins palliatifs.
T'as des drôles de fréquentation.
C'est docteur Aoussa qui parle.
Et je sais qu'ils font un boulot formidable.
Excusez-moi.
Et ça a fait des progrès immenses.
Juste une question, est-ce que quelqu'un connaît des pays européens qui ont une législation déjà bien...
Oui, la Suisse. La Belgique, la Suisse.
Et comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien,
Exactement, de la même façon que la légalisation du shit.
Oui.
Ça n'a pas fait de surconsommation de shit.
Le shit, c'est le cannabis, pour ceux qui comprennent.
Ni
pas.
En Espagne, ni en Hollande ou autre. Et puis l'euthanasie, ça n'a pas fait une surmortalité ni en Belgique, ni en Suisse. Et visiblement, d'ailleurs, c'est assez... On n'a pas les chiffres, mais je crois que c'est assez marginal, le nombre de personnes qui se font euthanasier.
Et qu'ils demandent, alors
qu'ils le demandent, il suffit. Tu vends. Bien sûr. Tu vas à l'hosto, machin.
Non, c'est assez encadré dans ce sens, quand même, y compris. Avant.
C'est pas du suicide.
Le malade fait la demande, mais il y a des examens. Il y a des entretiens c'est comme par l'avortement. Le corps médical. Exact,
comme l'avortement.
Non, mais
c'est ça... comme l'avortement. C'est-à-dire qu'une femme qui veut se faire avorter, il lui, même quand c'est légal, par exemple en France, il lui suffit pas d'aller à l'hosto, je veux me faire avorter. On dit, madame, ok, etc. Vous allez réfléchir, vous allez revenir me voir dans trois jours, etc., etc. Et puis au bout du compte, ça y est, elle va pouvoir se faire avorter. Pour l'euthanasie, en Belgique comme en Suisse, c'est à peu près le même processus. Quoi.
Mais quand la personne n'est pas, n'a plus sa conscience du tout, alors c'est la famille qui va décider ?
Ah bah là, non, là, ça relève de l'assassinat.
Non, oui,
si, mais s'il n'y a plus sa conscience du
peut,
tout...
Le suicide assisté à un Suisse ne peut se faire que conscient.
Ah oui, que conscient, d'accord. Oui, oui,
et en mais c'est le véritable problème.
Ah oui.
C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans le coma depuis 20 ans, est-ce qu'on le débranche ou on ne le débranche pas?
On a eu des cas.
Mais je voudrais revenir sur un problème de société.
M'abuse.
Vous vous souvenez, quand il y a eu toutes ces manifs sur le mariage pour tous, etc., moi, je crois que le poids du religieux, je ne partage pas forcément le point de vue de Malraux qui disait que le 21e siècle, hein, etc., etc. Je pense que une question comme celle-là, si jamais il y avait une loi sur l'euthanasie, toutes les religions montraient au créneau en disant « mais attendez, c'est complètement fou, seul Dieu a le choix et a la puissance de décider de la mort de quelqu'un, etc. » C'est, à mon avis, c'est un tsunami plus important comme réforme de la société que le mariage pour tous.
Au niveau du christianisme, du catholicisme, certainement. Au niveau de l'islam, j'ai plus de doutes, parce que c'est quand même une des choses phares dans l'islam la plus intégriste, qui est de mourir en martyr de la foi. C'est de l'euthanasie, quoi, quelque part.
Oui, parce que quand on est martyr de la foi, on a droit à je ne sais combien...
Mille vierges, voilà. Et que d'ailleurs, il faut être sacrément con, parce que si pour l'éternité,
oui,
t'as que 1000 vierges, sachant qu'avant, on peut y rester, si jamais tu...
Ah bah oui,
oui mais, non, mais tu imagines...
Non, en fait, c'est une escroquerie complète, quoi.
Non, mais cher confrère, tu sais très bien que si c'est le cas, ils ont intérêt, vu l'âge en général des gens sur lesquels on pratique l'euthanasie, à emmener un saut de Viagra, hein, parce que... Sinon, ça va être compliqué.
En plus, oui, c'est pour l'éternité.
Et donc peut-être 1000 vierges sans Viagra pour l'éternité.
Ça devrait aller.
On a le sang réutilisable.
Il y a une chose dont j'aimerais qu'on parle peut-être aussi pour terminer. Et je vous parlais, moi, des deux morts. La mort physique, ok, l'euthanasie, tout le monde, on vient d'en parler. Mais aussi la mort sociale, la mort politique.
Politique.
Et qui est probablement plus dure à vivre que la mort physique, parce que Frèche, par exemple, comme tout le monde d'ailleurs, il a dû probablement s'apercevoir en 40 secondes que
ça allait
que c'était fini, et puis point barre. Quand vous prenez quelqu'un comme Mandrou, mon exemple, il n'était pas anodin, il n'était pas au hasard. Là, elle est en agonie politique.
Non, je ne pense pas.
Ah, à moins que...
Je ne pense pas, parce
qu'elle a peut-être ressuscité.
La question palliative, peut-être que...
Non.
Grâce à une chimio savante...
La politique ne s'arrête pas parce que tu perds une élection. Une personne ne peut faire de la politique.
Ce que pour l'attention...
C'est pas perdre une élection, là.
Non, mais pour l'instant, elle ne l'a pas fait.
La possibilité de se présenter.
Non. C'est ni l'un ni l'autre. Elle dit simplement, je n'accepte pas les règles du jeu actuel. Donc, on va voir.
Oui,
mais là...
Ne l'oublions pas, c'est un bon exemple.
Mais c'est vrai,
on prend l'exemple d'un chômeur, par exemple.
Eh bien, mais
qui va être ostracisé du monde du travail.
Mais quoi un chômeur, c'est pas définitif. Le mec, il est au chômage, il est au chômage 6 mois. 6 mois après, il travaille. C'est pas parce qu'on passe pas d'un statut à un autre d'une façon définitive.
Oui, c'est-à-dire que ce que tu expliques, c'est que tu as des rémissions alors que l'euthanasie est irréversible.
Donc à partir de ce moment-là, c'est impossible de raisonner comme ça.
Voilà. Alors, mes chers docteurs...
Sans croire au miracle.
Oui.
Il y a quand même des rémissions.
La mort fait-il partie de la vie ou la mort, c'est à part de la vie, en quelque sorte? Est-ce qu'on inclut la mort dans la vie ou on la met à part? Mais ça va être la conclusion, bientôt. Donc, il va falloir que vous trouviez un petit mot chacun.
La mort, c'est l'unique objet de la vie.
Voilà.
Absolument.
Docteur House?
Pour moi, la mort, c'est ni un point d'exclamation, c'est ni un point... d'interrogation, pour moi c'est un point final.
C'est un point barre.
un point final,
et puis,
euthanasié.
On va rigoler un petit peu, j'ai du mal à croire que mes deux collègues un jour vont se balader avec des petites ailes dans le dos quand même, il ne faut pas exagérer.
Je crois en effet que...
Avec des petites cordes dessus la tête.
Là je crois qu'en effet, il y aura des cordes.
Mais il fait nettement plus chaud en enfer qu'au paradis.
Oui,
paradis, il fait froid en enfer au moins.
Le docteur climatique.
C'est un réchauffement et tout.
Le docteur Jekyll préfère l'enfer, j'en suis persuadé. Quant aux autres, je crois aussi qu'ils ont des drôles d'idées. Alors, écoutez, on arrive à la fin de cette petite émission. Hein. Alors, pour conclure l'émission, comme le disait Geneviève Taboui sur RTL dans les années 50, à samedi prochain pour les dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?